Francovox, la plateforme des podcasts francophones en partenariat avec TV5Monde.
TV5Monde est l'un des trois plus grands réseaux mondiaux de télévision. C'est la première chaîne de télévision internationale et gratuite diffusée en français. Son rôle, promouvoir la langue française et les cultures francophones entre TV5Monde, TV5Monde, TV5Monde Plus ou encore TV5Monde Style, consacré à l'art de vivre. La chaîne, depuis sa naissance en 1984, s'est agrandie, s'est transformée, a déployé ses ailes. Elle se transforme encore aujourd'hui en proposant de nouveaux programmes. Elle se digitalise pour refléter une francophonie moderne, celle de l'avenir. Bref, elle bouge. Bienvenue dans le podcast « Elles, ils font bouger la francophonie », un podcast produit par Fusio Studio. Je suis Eva Levesque et je suis accompagnée aujourd'hui par Nabil Bourajra. Bonjour Nabil.
Bonjour Eva.
Vous dirigez TV5Monde Maghreb-Orient et vous dirigez aussi TV5Monde Style Maghreb-Orient au sein de la direction marketing distribution de TV5Monde à Paris. Quelle est votre audience dans le monde aujourd'hui? Vous êtes présent dans combien de pays aussi?
Alors, nous sommes présents dans autant de pays que ceux de la FIFA, c'est-à-dire on est dans environ 198-200 pays dans le monde, avec un total d'environ 364. Dernièrement, on était à 404 millions de foyers dans le monde, mais avec les petits problèmes qu'on a en Russie, du coup, on a retiré les chiffres de la réception en Russie parce que je pense qu'on n'est pas très autorisé à être présent sur place. Donc, on est dans les 400 millions de foyers dans le monde qui reçoivent TV5Monde, avec une audience d'environ plus de 60 millions de téléspectateurs par semaine mesurée. Sachant que dans la plupart des pays d'Afrique, notamment au Maghreb, c'est très compliqué de mesurer l'audience hebdomadaire et quotidienne. Donc voilà, sur les pays mesurés, on est à plus de 60 millions de téléspectateurs hebdomadaires sur TV5Monde.
Et justement, j'allais vous demander, votre audience dans la région Maghreb-Orient?
Alors, elle est très difficile à mesurer parce que c'est surtout sur du déclaratif. On n'a pas encore les outils de médiamétrie ou alors ils sont réservés aux chaînes locales. Mais en tout cas, on est sur 66 millions de foyers qui reçoivent TV5Monde sur la région Maghreb-Orient, donc on est très regardé. Nos dernières études, Kantar AfricaScope Maghreb, nous créditaient en 2019, je crois, 2020, pendant 5 années consécutives de la première chaîne francophone mondiale dans la région.
Ce sont des chiffres qui sont en croissance, notamment en Afrique, non?
Oui, en Afrique. Alors, pour une raison démographique, c'est là que se trouve le premier bassin francophone aujourd'hui et de demain. Donc, ce qui est aussi a une importance sur TV5Monde, notamment RDC, dans les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et le Maroc, et l'Algérie. Donc oui, on est très très regardé dans les pays d'Afrique.
Donc la francophonie se porte bien?
Oui.
Vous, qui êtes en charge donc, du Maghreb aussi, est-ce que cette audience monte dans les pays du Maghreb? Encore une fois, c'est peut-être difficile pour vous, vous avez dit que c'est difficile de mesurer, mais notamment face au retour des langues locales, à la montée constante en puissance de l'anglais, ou même à des pressions politiques comme en Algérie par exemple, est-ce que cette croissance, elle est là ou pas?
Oui, elle est là, parce que la langue française dans les pays du Maghreb est un outil, est un trésor qui est utilisé non seulement par ceux qui travaillent dans la région, parce que c'est souvent la langue du travail, mais aussi pour ceux qui étudient et qui veulent venir étudier dans des pays francophones, parce que la différence avec TV5Monde, c'est que nous ne sommes pas une chaîne française, nous sommes une chaîne francophone qui appartient à 5 pays, notamment des pays qui sont des destinations pour les étudiants qui veulent émigrer ou s'expatrier des pays du Maghreb, comme le Canada, comme la Belgique. Donc voilà, donc le français se porte très bien et il a sa place comme les langues locales, comme l'anglais, comme le chinois maintenant de plus en plus. Vous savez, TV5Monde, on a cette culture d'être polyglotte et d'être en relation d'autres langues. Au Canada, le français n'est pas la langue principale. En Belgique, il y a le français et le flamand. En Suisse, c'est la même chose. Donc nous n'avons pas ce problème de pas vouloir partager d'autres langues. La langue française a sa place, comme l'anglais, comme l'arabe, comme le derija marocain, comme le derija algérien, comme les Tunisiens. Et les pressions politiques dont vous parliez, elles ne sont pas présentes au niveau des peuples, en fait. Hein. Les peuples sont beaucoup plus au-dessus que tout ça. Les peuples marocains, algériens, tunisiens sont très au-dessus de toutes ces histoires politiques. Et le français permet à différents pays d'Afrique de communiquer entre eux. C'est un lien, par exemple, entre un Marocain et un Sénégalais, un Ivoirien et un habitant de Kinshasa. La seule langue qu'ils vont utiliser pour se comprendre sera le français. Donc c'est aussi une langue véhiculaire qui permet aussi de véhiculer des idées et des propos et des amitiés, des échanges parmi les pays d'Afrique.
ils font bouger la francophonie.
Parfois, le français est quand même remplacé par l'anglais, notamment dans les écoles. Et donc,
oui, bien sûr. Oui, oui. Ben, il est remplacé parce qu'il y a, il est remplacé parce qu'il y a un besoin aussi peut-être de cette nouvelle génération d'apprendre l'anglais parce qu'elle elle a envie de voyager dans d'autres pays et dans, forcément dans ces pays on parle anglais, donc il est logique pour eux d'apprendre l'anglais. Peut-être même d'avoir des ambitions professionnelles et de travailler dans des grosses firmes internationales dont la langue est l'anglais. Donc bien sûr, il y a pas de débat là-dessus. Après, la force de TV5.1, c'est qu'on est une chaîne qui est également sous-titrée en 13 langues. On est regardé en français, on est écouté, pardon, en français, mais on est aussi regardé via les sous-titres de 13 langues. Alors, je vais vous les citer, hein. On a l'anglais, on a l'allemand, on a l'arabe, on a le chinois traditionnel et simplifié. On est sous-titré également en coréen, en espagnol, en japonais, en néerlandais, en roumain, en russe, en vietnamien et en français. Donc, ce qui nous fait un bon panel de téléspectateurs qui peuvent nous regarder et avoir les sous-titres dans la langue qui leur est la plus proche.
Au-delà de ce sous-titrage, qu'est-ce que vous faites pour garder cette popularité et votre audience?
On fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire proposer des programmes de qualité en provenance de tous les pays francophones, notamment nos 5 pays qui forment les tutelles de TV5 Monde. C'est le Canada, la Belgique, la Suisse, la France et depuis peu Monaco, via leur service public de télévision, notamment France Télévisions pour la France, RTBF pour la Belgique, les RTS pour la Suisse, Radio-Télé Québec-Canada pour le Canada, et maintenant les Monégasques. Mais voilà, donc c'est via les services publics de ces États membres que nous proposons des catalogues, des programmes de qualité. On a également notre présence sur le numérique, grâce à la plateforme TV5+, que nous avons lancée en septembre 2020, avec plus de 6 milliards de programmes. Donc on est sans cesse en renouvellement, on essaie de suivre et d'anticiper également les goûts, les habitudes des téléspectateurs.
Donc voilà, vous avez aussi un nouveau catalogue qui a été étoffé par des œuvres du continent africain, par exemple.
On a toujours financé la production en Afrique, francophone. Donc non, c'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'elles sont peut-être plus mises en avant via la plateforme, parce qu'elles sont plus accessibles pour tout le monde.
D'accord.
Elles étaient déjà accessibles sur TV5 Monde Afrique et certaines chaînes, notamment comme Maghreb Orient. Mais maintenant que la plateforme TV5 Monde Plus est disponible partout dans le monde et gratuite, du coup, oui, ça donne peut-être un peu plus de visibilité à ces programmes africains que nous avons toujours cofinancés et diffusés.
Ils font bouger la francophonie.
Vous l'avez mentionné, donc l'arrivée de Monaco, dans l'actualité de TV5 Monde, il y a justement ce nouveau actionnaire. Alors, pour expliquer à nos auditeurs votre fonctionnement déjà, rappelons peut-être en quelques mots comment TV5 Monde est né, quelle est la motivation de créer un tel organisme.
Alors TV5 Monde est né de par cette envie de promouvoir le français dans le monde via les services publics des 4 pays à l'origine, la France via France Télévisions et à l'origine, c'était même TF1 qui était dans le service public en 84, je crois, la RTBF, la RTS et la chaîne publique canadienne. Et via leur chaîne publique, des États membres ont créé et financé TV5 Monde pour cette promotion de la francophonie dans le monde. Et comme vous l'avez mentionné, un nouvel actionnaire est arrivé fin 2021, début 2022, Monaco. C'est aussi historique, hein, parce que c'est depuis la création de TV5 Monde en 84 que Monaco, aujourd'hui, intègre le club des 5.
Et qu'est-ce que ça change, en fait, pour vous?
Alors pour nous, ça change parce que les pays membres apportent une contribution budgétaire, donc ça change énormément pour nous. On est une chaîne publique de services publics. Mmh. Donc, en termes de moyens financiers, c'est très important pour nous d'avoir un pays comme Monaco et aussi d'avoir la confiance renouvelée de tous nos états de tutelle à l'origine. Donc oui, c'est très important pour nous.
Et vous êtes aussi opérateur de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Exactement, oui. Nous sommes le média officiel de l'OIF, oui.
Et ici, en Moyen-Orient, vous êtes présent de quelle manière? Comment est-ce qu'on peut vous regarder?
Alors, on est présent sur les bouquets French Package chez Etisalat et chez DU. Nous sommes également disponibles gratuitement en freeware, c'est-à-dire en satellite, sur Nilesat et sur Arabsat. Et nous sommes également disponibles sur Internet via notre plateforme numérique TV50+, gratuite et sous-titrée en 5 langues, dans laquelle vous trouverez...
Justement, qu'est-ce qu'on y trouve?
Beaucoup de choses, beaucoup. Et heureusement que c'est catégorisé. Vous avez tout ce qui se fait de mieux dans le cinéma francophone, français, belge, le cinéma suisse, canadien, les séries canadiennes sont très très bons également en production de séries canadiennes. Vous avez de la musique, vous avez des émissions culturelles, vous avez des documentaires. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Vous avez des programmes jeunesse, vous avez des programmes éducatifs, vous avez des podcasts. Bientôt, peut-être les podcasts de Francovox.
Inch'Allah, comme on dit.
Inch'Allah, oui.
Vous avez aussi TV5 Monde Style.
Oui. Oui, une chaîne qui a été créée en 2015.
Qui est présente ici.
Qui est présente également ici, qui met en avant, qui fait la promotion de l'art de vivre, du patrimoine, de la gastronomie francophone.
Très bien. Et alors, il y a une chaîne qui existait déjà depuis longtemps dans le monde, TV5 Monde, et qui est arrivée ici en janvier, en tout cas sur satellite, TV5 Monde Maghreb-Orient.
Oui, oui, oui. Alors, on a lancé cette chaîne le 28 janvier 2022.
Sur quel satellite ?
Alors, sur Arabsat. Elle est disponible sur Arabsat, mais on est en train de travailler pour la déployer sur d'autres manières de pouvoir la regarder, soit en numérique ou sur d'autres satellites. Mais ce qui était drôle sur cette chaîne, c'est sur le nom qu'on a donné à la chaîne. Beaucoup de gens, quand on était en promotion au Maroc avec Yves Bigot, le PDG de TV5 Monde, beaucoup de questions revenaient souvent sur le choix du nom de la chaîne. Est-ce que c'était pas une... mal choisi, est-ce que c'était pas une façon de se moquer de l'accent arabe? Alors, moi, ça me faisait rire, parce que je suis d'origine marocaine, donc ça serait méconnaître ma propre langue, ma langue maternelle. Alors, ce qu'on leur expliquait, c'est qu'à l'origine, cette chaîne a été créée en 2012 pour les États-Unis, d'où le nom TV, T-I-V-I. Et on a voulu donner un petit côté ludique, enfantin, de la prononciation de la chaîne, donc TV5.
Donc elle s'adresse à quel public, quel âge?
Alors, cette chaîne s'adresse officiellement pour les 4-14 ans, mais on a eu beaucoup de retours de gens et de parents qui regardaient même sans leurs enfants. Donc, moi, je m'amuse à dire que c'est ce que disait pendant le Club Dorothée. Alors, pour ceux qui nous écoutent, ça va peut-être leur remonter un petit peu le temps et un petit côté nostalgique. Le Club Dorothée qui disait qu'il était... c'était pour les 7 à 77 ans. Donc là, on est pour les 4 à 77 ans pour TV5. Donc voilà, elle a été créée en 2012 pour les États-Unis. Ensuite, en 2016, elle a été déployée sur l'Afrique subsaharienne via les satellites SES-5. Et en 2022, grâce à l'entrée de Monaco, et ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance d'avoir un nouvel État membre, le budget qui a été alloué nous a permis de lancer la chaîne TV5 sur satellite.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette création de TV5 Monde dans le sens général? Est-ce qu'il s'agit justement d'entretenir cet amour pour la langue française et pour les cultures francophones ou le faire découvrir
Oui, bien sûr. Alors, y a plusieurs choses. La première chose, c'est que les enfants sont souvent délaissés par les chaînes de télévision généralistes. C'est-à-dire que vous constaterez même que les cases jeunesse des grandes chaînes se sont fortement réduites pour n'être présentes que le mercredi ou le week-end. Alors TV5 est une chaîne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors mon conseil en tant que parent, c'est pas non plus de mettre les enfants devant la chaîne pendant toute la journée ou pendant des heures.
Bien qu'il y ait des programmes éducatifs.
C'est une chaîne ludo-éducative. Bon, plus ludo qu'éducative, mais elle a
on
beaucoup...
Apprend, en
voilà,
s'amusant.
On apprend en s'amusant. Il y a plein de dessins animés et les pays francophones, notamment la France, sont très très doués. En termes d'animation, vous avez des dessins animés comme Simon Lapin, vous avez Maya Labé, vous avez beaucoup de choses qui sont de très bonne qualité. Donc voilà, donc à l'origine, c'était pour proposer aux enfants de nos téléspectateurs, francophones ou francophiles, le choix de pouvoir regarder des dessins animés. Également, ça aide à l'apprentissage de la langue, de regarder certains programmes pour enfants. Et il y a aussi cette approche, on va dire, généraliste. C'est-à-dire qu'on proposer programmes pour tout le monde. Donc, lancer une chaîne jeunesse, pour nous, était également importante. Il n'y avait pas de stratégie politique ou autre derrière tout ça. On a entendu un peu tout et n'importe quoi à son sujet. Enfin, des gens qui voient de la politique partout et du complot partout, ben, de toute façon, ça ne sert à rien d'expliquer
non,
quoi que ce soit.
Non, il ne s'agit pas du complot, mais voilà, effectivement, de promouvoir le français peut-être
voilà,
dès le plus jeune âge.
Voilà, la promotion du français, oui. Moi, j'ai eu beaucoup d'attaques, entre guillemets, mais bon, des gens qui racontent n'importe quoi sur Twitter.
Ah bon, vous avez ça?
Ah, oui. Des gens qui pensent qu'on pollue l'esprit des enfants avec des gens qui sont contre le français mais qui s'expriment en français sur les réseaux sociaux. Donc déjà je pense qu'ils ont déjà un problème à régler avec eux-mêmes. Donc voilà, donc non c'est vraiment une chaîne vraiment jeunesse enfant pour proposer aux enfants des programmes de qualité et en français.
Ils font bouger la francophonie.
Nabil, la semaine de la francophonie a lieu du 12 au 20 mars, mais en réalité, c'est pendant tout le mois de mars que nous assistons à des différents événements pour célébrer le français et les cultures francophones. Pour vous, c'est une autre histoire, c'est toute l'année que vous faites ça.
Alors nous, on a 52 semaines de la francophonie.
Exact. Alors un autre outil important, c'est l'aide à l'apprentissage du français que vous avez développé. Et pour cela, vous collaborez avec les alliances françaises et les instituts français. Et quels sont donc ces supports pour l'enseignement ou l'apprentissage du français?
Alors, vous faites très bien de le souligner. TV5 Monde n'est pas juste une chaîne de télévision. Nous avons également développé des outils pédagogiques d'apprentissage et d'enseignement du français qui sont utilisés dans les instituts français, les alliances françaises, les lycées, les collèges, les écoles privées et maintenant publiques françaises dans le monde, notamment sur la région Maghreb-Orient, pour ne parler que de ce que je sais. Donc oui, effectivement, ce sont des programmes qui aident. Alors, ils ne remplacent pas les professeurs de français, ils ne remplacent pas les cours de français.
Ouais, non, c'est un outil.
Mais oui. C'est un outil qui est extrêmement apprécié, que ce soit par les enseignants ou par les apprenants, via la plateforme Apprendre le français ou l'application pour les apprenants et la plateforme Enseigner le français pour les enseignants. On y trouve de tout pour apprendre le français de manière ludique cette fois-ci avec nos programmes vidéo, des programmes de nos émissions.
Oui, voilà, parce qu'il y a certaines émissions qui servent à l'apprentissage.
Exactement, qui servent à l'apprentissage du français. Nous avons des émissions qui sont dédiées à cet outil, comme Merci Professeur, comme les 7 jours sur la planète.
Exactement. Les 7 jours sur la planète, c'était un contenu phare du dispositif dont vous parlez. Et cette émission, elle a une application.
Exactement.
Une app.
Oui, oui.
Donc, le français donc enseigné, mais il est aussi concurrencé. Alors, dites-moi, selon vous, que faut-il faire pour que ça continue?
Alors, j'ai pas de recette magique, hein, mais...
Quel est votre avis?
Mon avis, c'est que... On se pose souvent des questions qui n'ont peut-être pas de réponse immédiate. La francophonie est là, la francophonie sera là. La promotion de la langue française se fait de plusieurs manières, que ce soit par les parents qui veulent inculquer leurs enfants une langue qu'ils aiment, ou leur langue même maternelle, une langue qui va servir peut-être pour les uns, pour travailler, pour les autres, pour peut-être apprendre d'autres choses. On est vraiment dans le plurilinguisme à TV5Monde. Nous ne sommes pas là pour remplacer les langues des pays. Il y a la place, comme je disais tout à l'heure, pour l'anglais, pour le chinois, pour le turc, pour l'arabe. Donc voilà, on est dans notre rôle de la promotion de la langue française dans le monde. Et voilà, après, on fait tout, en tout cas en termes d'outils marketing, pour la rendre intéressante, la rendre...
Oui, justement, pour qu'elle ne soit pas en perte de vitesse
voilà,
aussi.
Perte de vitesse et la rendre accessible et moderne. En fait, la langue française, telle qu'elle est perçue dans certains pays du monde, reste, peut-être que je me trompe, mais c'est le ressenti que j'ai dans certains pays, une langue de papa ou de maman ou de papy ou de mamie qui ont étudié le français quand la France était présente dans certains pays. Alors que ces Français de cette époque n'est pas le même aujourd'hui. Il évolue, c'est une langue vivante qui est également véhiculée par des artistes francophones, africains, maghrébins, asiatiques, voilà,
c'est
québécois, belge. Regardez juste aujourd'hui la richesse de la scène musicale artistique belge, de Stromae à Angèle. Regardez la scène musicale française avec qu'on parte de Hayam jusqu'à aujourd'hui les nouveaux artistes francophones. Elle est en perpétuelle évolution et c'est ce qui va, je pense, améliorer et peut-être faire croître la langue française dans le monde.
Ils font bouger la francophonie.
Et justement, pour vous, en tant qu'une chaîne de télé, peut-être aussi pour intéresser le public local, donc devenir plus proche du public qui vous regarde, est-ce que vous voulez faire plus de coproductions et peut-être de programmes qui sont donc plus proches de l'audience?
Alors, c'est ce qu'on fait en Afrique. En Afrique, on finance pas mal la production de séries, de films. Et d'ailleurs, on a beaucoup de prix de films africains qu'on a cofinancés, notamment au FESPACO, notamment au Discord. Donc, on est assez présent dans le continent africain. Mais oui, vous avez raison, la proximité, l'hypersegmentation est importante pour justement sensibiliser les gens et les téléspectateurs dans leur pays avec des programmes en français, mais qui leur parlent, avec des contenus qui leur parlent. Et vous avez raison, c'est vrai qu'au bout d'un moment, regarder des programmes en français des pays du Nord peut lasser certains pays du Sud, disant, voilà, bon, nous aussi, on parle français, mais on ne se sent peut-être pas assez représentés dans ces médias. Donc, on essaye, en tout cas. Moi, depuis mon arrivée à TV5Monde, j'essaie de faire en sorte que, sur la région Maghreb-Orient, on ait un peu plus de programmes originaires de la région. Mais la problématique, alors c'est vrai qu'on nous a souvent posé la question, et Bigot, le PDG de TV5Monde, y a répondu quand nous étions au Maroc pour la promotion de la chaîne jeunesse. Ce n'est pas un choix, on va dire, politique, c'est un choix économique. Financer la production en Afrique, dans les pays d'Afrique, est beaucoup moins cher que financer la production dans les pays du Golfe ou les pays du Maghreb.
J'allais vous poser cette question.
Ce ne sont pas les mêmes coûts, ce ne sont pas les mêmes tarifs. Donc c'est juste une question économique, en fait.
D'accord, donc quid des pays du Golfe ou du monde arabe, c'est une question économique. Vous aurez les sous,
En fait,
mais vous avez l'intention.
Ce n'est pas une question de si on a les sous ou si on n'a pas les sous, c'est que les coûts de production pour faire une série ou un film en Côte d'Ivoire ou en RDC n'est pas du tout le même que le coût de production au Maroc, en Algérie, ou à Dubaï ou à Abu Dhabi. Après, voilà, vous savez, moi je suis partisan de trouver des solutions. J'ai invité les producteurs marocains, algériens, tunisiens pour la région Maghreb. Je le fais également là via votre podcast, inviter les producteurs des pays du Golfe. On peut travailler ensemble, on doit travailler ensemble. Et si l'argent est effectivement le nerf de la guerre pour faire des choses de qualité, il y a d'autres possibilités via des sponsors, via des annonceurs, via voilà, on peut trouver des solutions.
Et on peut travailler ensemble sur ce sujet.
On peut et on doit travailler ensemble.
Puisque vous l'avez mentionné, vous êtes d'origine marocaine, donc vous êtes né au Maroc, mais vous avez grandi en France. Alors Nabil, quelle était la place du français dans votre famille ?
Alors moi, je suis né au Maroc, je suis arrivé en France à l'âge de 8 mois, 9 mois, je crois, parce que mon père travaillait en France. Mon père, j'aime bien le dire, n'était pas un immigré, mon père était un expatrié. Alors je suis fils d'expatrié marocain qui est venu travailler en France, parce qu'il avait un contrat de travail quand il est arrivé en France. Donc oui, effectivement, plaisanterie à part, la langue française a une place importante chez nous parce que mes parents ne parlaient pas français. Ils sont arrivés en France, mon père travaillait, était ouvrier. Ma maman a étudié le français, mais de manière sommaire quand elle était au Maroc. Ce qui fait que la langue parlée à la maison était l'arabe, le marocain. Le français était pour moi ma deuxième langue, parce que c'était la langue que j'utilisais à l'école et dehors avec mes copains. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas d'accent, parce que je suis originaire des Vosges, de l'Est de la France. Donc pour ceux qui connaissent, pour vos auditeurs, il y a quand même un accent. Un accent également aussi avec un vocabulaire très spécifique. Donc oui, la langue française a toujours été importante pour nous, parce que c'était un moyen, un facteur j'aime pas dire le mot d'intégration, mais c'était ce qu'on utilisait à l'époque quand on était jeune. L'école était très importante pour nous et aujourd'hui, on le remarque, nos parents ont beaucoup insisté. Donc la langue française a toujours été très importante. Si mes parents n'étaient pas très francophones, le reste de ma famille l'était. D'accord. La plupart de mes oncles et tantes sont soit des professeurs de français, soit des maîtres de conférences au Maroc, notamment mon oncle Jaoued qui a même fait une thèse sur l'arabisation et l'enseignement du français au Maroc et qui donne des cours et qui forme des professeurs à Oujda. Mes tantes étaient, pour la majorité des cas, professeurs de français. Donc c'était drôle d'ailleurs, c'était souvent mes oncles et mes tantes qui me corrigeaient en français quand je m'exprimais plutôt que mes parents.
Et pour finir, quels sont les auteurs francophones que vous lisez ?
Pour être très honnête avec vous, j'ai de moins en moins le temps de lire, mais oui, il y a des artistes francophones qui m'ont vraiment marqué, ne serait-ce que Léon l'Africain d'Amin Malouf, qui, voilà, si un jour, quand je serai grand, je produirai le film et j'en ferai un film Léon l'Africain qui peut-être rassemblera et pacifiera peut-être beaucoup de relations européennes. Donc oui, Amin Malouf, vous avez des Tar Ben Jelloun, voilà, il y a du Yasmina Kadra que j'aime beaucoup. Que je salue au passage. Azouz Begag, quand j'ai lu Le Gant du Shabbat, ça m'a vraiment mis une claque, et encore plus quand j'ai vu le film. Donc voilà, il y a tous ces auteurs francophones. Voilà, la liste est longue, mais c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Et je ne m'arrêterai même pas qu'à la littérature. Le groupe IAM, notamment grâce à Akhenaton, que je salue également au passage, Philippe, qui m'ont fait apprendre énormément de choses en français, avec des référents culturels très intéressants, très importants. Et alors, petite anecdote, quand j'étais au Maroc, de 2011 à 2013, je dirigeais une société qui s'appelait Côte Ouest. J'ai ouvert le bureau à Casablanca, qui fournissait, on va dire, toutes les chaînes de télévision du Maghreb en programmes américains, turcs, etc. Et le soir, je donnais des cours à l'Institut français de Casablanca. Et j'utilisais beaucoup, alors je ne devrais pas le dire, mes collègues et autres professeurs des instituts français vont peut-être crier derrière leur ordinateur, leur radio. Mais j'utilisais beaucoup de textes d'Akhenaton pour enseigner le français. Car pour moi, l'enseignement du français ne se limite pas qu'à du Rabelais ou à du Voltaire ou des auteurs de renom.
Oui, c'est ce que vous disiez, la langue
bouge. Qui sont morts il y a
400
ans. Voilà, donc voilà, quand on lit, quand on écoute, quand on regarde les textes des artistes d'aujourd'hui, c'est très très riche, notamment, voilà, je vous parlais d'Akhenaton et des textes du groupe IAM qui m'ont servi notamment à donner des cours de français. Donc,
d'accord.
Voilà, c'est une façon, on va dire, ludique. Non scolaire d'apprendre le français à des apprenants, surtout que ce n'était pas des enfants, c'était des adultes.
De façon moderne.
Voilà, c'est des adultes qui connaissaient, mais qui ne sont jamais arrêtés sur les paroles. Ce qu'on faisait à l'époque de nos cours de français quand nous étions au lycée ou au collège, les lectures méthodiques, les commentaires composés. Donc voilà, j'essaie de faire la même chose avec des artistes un peu plus contemporains et récents.
Nabil Bourhajra, merci et à bientôt.
Merci, à très vite.
Ils font bouger la francophonie.
Et si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous
Partagez l'épisode et abonnez-vous sur le site francovox.org ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.
Et j'ajouterai, parlez-en même à ceux que vous n'aimez pas si vous n'avez pas aimé.
Et enfin, merci au Parc Hayat Abu Dhabi et à son directeur Thomas Grégory qui nous a accueillis pour enregistrer ce podcast.
Francovox, la plateforme des podcasts francophones en partenariat avec TV5 Monde.